Vous écoutez France Culture. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous ouvrirons ce journal avec l'audition ce matin par les sénateurs de l'ex-collaborateur du chef de l'État, Alexandre Benalla, mis en examen pour son intervention musclée en marge du défilé syndical du 1er mai avec Antoine Maret et Stéphane Robert. Nous analyserons la manière dont l'ex-homme de main d'Emmanuel Macron a tenté tant bien que mal de se disculper devant les sénateurs, assurant qu'il n'était pas le garde du corps du chef de l'État, même s'il lui arrivait de porter une arme lors de déplacements officiels.
Le projet de loi sur la fraude fiscale en discussion à l'Assemblée nationale.
Comment traquer et sanctionner davantage les fraudeurs fiscaux? Est-ce bien là d'ailleurs l'objectif du gouvernement? Analyse dans le journal de Marie Viennot, mais aussi Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE.
C'est aujourd'hui la journée nationale de la qualité de l'air.
La pollution aux particules provoquerait chaque année en France 48 000 morts prématurées. Et puis il existerait une autre pollution beaucoup plus difficile encore à contenir, la pollution à l'ozone. Explication dans ce journal avec Véronique Robérotte.
Et dans cette édition également, on part à l'étranger après des jours de controverses au sein de sa coalition. Angela Merkel a finalement décidé de démettre de ses fonctions le chef du renseignement intérieur allemand.
L'homme était accusé de collusion avec l'extrême droite, sauf qu'à peine sanctionné, il a été nommé secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. Nous irons également à Salzbourg, en marge d'un sommet des dirigeants des 28 États membres de l'Union. Le Parti populaire européen, le PPE, se réunit lui aussi sur fond de dissension autour du cas de la Hongrie. Enfin, direction la Corée du Nord, où Kim Jong-un s'est dit prêt à fermer définitivement deux de ses principaux sites d'essais nucléaires et balistiques. C'est l'un des points les plus significatifs de l'accord auquel il est parvenu avec son homologue sud-coréen. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La dromologie, c'était lui un néologisme qu'il avait inventé pour définir des études sur le temps, l'accélération du temps, la vitesse, mais aussi la désintégration des territoires à partir de 12h55. Avec trois invités, nous reviendrons sur l'œuvre de Paul Virilio, philosophe et urbaniste dont on a appris la disparition hier. À nos côtés, l'architecte Jean Nouvel, le photographe Raymond Depardon et l'urbaniste Thierry Paco.
Merci, à tout à l'heure. Révélée l'été dernier, l'affaire avait été qualifiée de « tempête dans un verre d'eau » par le président Emmanuel Macron. Et pourtant, deux mois plus tard, loin de s'évanouir, voilà qu'elle continue d'occuper le devant de la scène. L'audition d'Alexandre Benalla, principal protagoniste de l'affaire qui aura empoisonné donc tout l'été et encore un peu de l'automne d'Emmanuel Macron, s'est ouverte ce matin dans un contexte explosif. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à cette audition, je parlais à l'instant d'un contexte explosif, mais qu'Alexandre Benalla aura visiblement cherché, peut-être même d'ailleurs réussi à déminer.
Oui, Alexandre Benalla a d'abord créé la surprise. Lui, que l'on dépeint habituellement comme arrogant, très sûr de lui, a entamé son audition par un acte de contrition. Il a présenté ses excuses au président de la commission, Philippe Bas, qu'il avait qualifié de petit marquis.
J'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, monsieur le président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Et j'ai le regret d'avoir eu les propos qui ont été les miens à votre rencontre. Pour le reste, je voulais vous assurer de mon respect total des institutions, du Sénat et des sénateurs.
Séance de câlinothérapie avant de rentrer dans le vif du sujet, en particulier la question principale que se posent les sénateurs. Quelle était la fonction exacte d'Alexandre Benalla auprès d'Emmanuel Macron? S'est-il occupé de la sécurité du chef de l'État?
À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface entre le candidat et un certain nombre de personnes, où vous êtes un facilitateur, vous avez une proximité physique avec la personne. Moi, j'avais une tâche d'organisation générale, de sécurité générale. Mais sur des meetings, j'étais proche de lui physiquement, et on l'a vu dans les médias, mais comme un certain nombre de personnes sur lesquelles on ne porte pas le focus aujourd'hui. Vous avez besoin de cette proximité pour lui passer un certain nombre de messages. Mais je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron, et je ne l'ai jamais été.
Le ton est calme, Alexandre Benalla semble avoir réponse à toutes les questions des sénateurs. Il n'est pas avare de détails très techniques, mais cela n'impressionne pas la sénatrice Gisèle Jourda, qui lui réplique « Vous êtes précis, mais pas sur les questions que l'on vous pose. » Notamment celles concernant son port d'armes à feu. En a-t-il, oui ou non, détenu une au moment des déplacements publics et privés du chef de l'État? Alexandre Benalla tente de noyer la question sous un paquet de considérations techniques dans un premier temps. Mais face à l'insistance des sénateurs, il finit par reconnaître « ça a pu arriver ».
Merci Antoine Maret ainsi qu'à Stéphane Beaufils pour les moyens techniques. Et bonjour à vous Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Alors toute cette affaire a donné lieu ces derniers jours à des échanges, disons plutôt musclés, entre l'exécutif et le Sénat, s'écharpant sur la question de la séparation des pouvoirs. Les élus de La République En Marche ont d'ailleurs boycotté cette audition ce matin, considérant que la commission sénatoriale n'avait là d'autre but en somme que d'affaiblir le président et l'exécutif. Or, la défense adoptée ce matin par Alexandre Benalla apparaît in fine en complète contradiction avec la stratégie élaborée jusqu'à présent par les proches du chef de l'État.
Oui, d'ailleurs, Alexandre Benalla a donné le ton dès le début de cette audition. Antoine Maret vient de le dire en assurant qu'il avait un grand respect pour le Sénat et même en présentant ses excuses à Philippe Bas pour l'avoir traité de petit marquis il y a quelques jours. C'est donc un changement de pied complet, non seulement par rapport à ce que lui, Benalla, avait pu déclarer, mais par rapport aussi à la stratégie élaborée ces derniers jours par l'ensemble de l'entourage d'Emmanuel Macron. Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, étaient tous montés au créneau pour dénoncer l'instrumentalisation politique que le Sénat faisait de cette affaire. Les sénateurs, La République En Marche, qui devaient participer à cette audition, s'étaient décommandés. Et le président de la République lui-même avait passé un coup de téléphone au président du Sénat, Gérard Larcher, pour se plaindre des travaux de la dite commission. On a du mal à imaginer que ce virage à 180 degrés soit le seul fait d'Alexandre Benalla. Cette affaire très sensible continue vraisemblablement à être pilotée depuis le plus haut sommet de l'État. Et donc, ça signifie qu'à l'Élysée, on a sans doute compris que la guerre de tranchées déclenchée avec les sénateurs était contre-productive. Plus globalement, ça ressemble à une remise en cause de l'attitude adoptée par Emmanuel Macron depuis le début de cette affaire, notamment quand il avait déclaré bravache devant les députés En Marche, qu'ils viennent me chercher. Et ça laisse penser que peut-être Emmanuel Macron a entendu la critique que lui avait adressée il y a quelques jours celui qui, à cette heure, est encore ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur le manque d'humilité.
Merci Stéphane Robert. Et puis j'ajoute que depuis une heure environ, dans la foulée donc de l'audition d'Alexandre Benalla, Vincent Crase, réserviste de la gendarmerie, comme lui, collaborateur du palais présidentiel et également mis en examen, est à son tour entendu devant la commission d'enquête du Sénat. L'ancien président du Grand Palais, Jean-Paul Cluzel, aurait-il claqué en 5 ans 410 000 euros en location de limousines et frais de taxi, ainsi qu'on peut le lire ce matin dans les colonnes du Canard Enchaîné. L'hebdomadaire s'appuie sur un rapport confidentiel de la Cour des comptes. Le principal intéressé, lui, récuse ses accusations. L'Assemblée nationale a voté la nuit dernière et au grand dam de l'opposition l'extension à la fraude fiscale de la convention judiciaire d'intérêt public. Alors qu'est-ce que cela signifie en clair ? Cette mesure doit permettre à une entreprise de payer une amende afin tout simplement d'éviter des poursuites et ainsi de ne pas être reconnue coupable de fraude fiscale. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Cette logique du plaider coupable est en réalité directement importée des États-Unis. Quel est l'intérêt pour un pays comme la France de céder en somme à ce genre de petits arrangements avec le droit ?
Eh bien, c'est une logique d'efficacité liée à la misère des moyens de la justice publique et aussi à la difficulté de prouver et faire condamner ceux qui commettent le délit de fraude fiscale. Ce plaidé coupable a été introduit dans notre droit en 2016 pour les faits de corruption et de blanchiment de fraude fiscale. À ce jour, une seule entreprise en a fait l'objet, la banque HSBC. Elle avait été mise en examen en 2014 pour démarchage bancaire et financier illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale. La banque s'en est donc tirée sans procès en signant un chèque de 300 millions d'euros. Elle a, elle, évité d'être reconnue coupable et le parquet s'est évité de longs mois d'enquête et un procès qui n'aurait pas forcément débouché sur une condamnation. Établir le délit de fraude fiscale n'est effectivement pas si facile qu'on le croit, car il faut démontrer l'intention de frauder. Or, la frontière entre fraude et optimisation étant mince, et les moyens de ceux qui fraudent, particuliers ou entreprises colossaux pour se défendre, ces condamnations sont rares. Le tribunal administratif a ainsi annulé l'amende d'un milliard d'euros imposée par le fisc à Google et il y a trois mois, la cour d'appel a relaxé les héritiers Wildenstein, les marchands d'art, au motif que le délit de fraude fiscale était prescrit. C'est donc pour éviter ce genre de revers que le projet de loi étend le plaidé coupable à la fraude fiscale. Le problème soulevé par l'opposition pendant le débat hier à l'Assemblée, c'est que cela crée une justice à deux vitesses et donne le sentiment que pour ceux qui ont les moyens moyens, l'impunité se monnaie. Le ministre du budget Gérald Darmanin n'y était d'ailleurs pas favorable en juillet à se plaider coupable, mais il a fait volte-face et n'était pas hier dans l'hémicycle pour s'en expliquer, ce qui a beaucoup chiffonné l'opposition qui a réclamé sa venue à coup de suspension de séance, mais sans succès.
Merci Marie Viennot. Alors pour prolonger le débat, invité de ce journal, aujourd'hui Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Une première question avant de céder la parole à Marie Viennot. Le vote de cette nuit à l'Assemblée repose finalement la question de cette frontière étroite qui existe entre d'un côté l'optimisation fiscale, légale, et puis de l'autre la fraude fiscale.
Qui est illégale. Alors on a une zone blanche, une zone noire et une zone grise. Et le problème, il est toujours dans la zone grise. La zone blanche, c'est légal, c'est clair, même s'il y a un avantage fiscal, c'est ce que voulait le législateur. Donc les contribuables en ont bénéficié. La zone noire, c'est je fais de la fraude, je cache mon argent en Suisse, ou je cachais, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible, et je ne le déclare pas en France. Là, on est clairement dans la fraude. Puis vous avez toute une zone grise où j'utilise la loi pour diminuer mon impôt, mais pas tout à fait dans l'esprit de la loi. L'administration fiscale vient, fait un redressement, et puis ça peut tenir ou pas devant le juge. Il y a un doute, et là, puisqu'il y a un doute d'un point de vue fiscal, est-ce que l'impôt est dû ou pas, il y a un doute encore plus gros d'un point de vue criminel ou délictueux, est-ce qu'il y avait intention de frauder ou pas, et on voit que tout cela va se résoudre in fine dans la pratique, et il faut bien sûr que les lois aillent le plus loin possible dans la lutte contre la fraude, sans atteindre au principe des droits de l'homme et de défense du contribuable pour pas qu'il y ait d'abus de l'administration. C'est toute une question d'équilibre. Au cours des dernières années, on va plus vers la lutte contre la fraude.
Une question de Marie Viennot.
Oui, alors depuis 10 ans, on a beaucoup avancé sur la lutte contre la fraude fiscale. L'échange automatique d'informations qui permettra au fisc de tous les pays qui adhèrent à cette norme d'avoir accès aux informations bancaires de leurs ressortissants se met en place. Vous défendez-vous l'idée que vraiment les choses avancent? Mais selon vous, quand même, ce qu'il reste à faire, c'est la responsabilisation des intermédiaires, cabinets d'avocats ou autres. Le projet de loi prévoit justement une amende pour les intermédiaires qui feraient commerce du conseil en fraude fiscale. Est-ce que c'est la bonne réponse pour vous?
Alors c'est une des bonnes réponses. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, littéralement aujourd'hui, d'ici le 30 septembre, les administrations d'une centaine de pays, ça comprend la Suisse, Singapour, tous les États à secret bancaire, sont en train d'échanger les renseignements bancaires sur les clients de leurs banques qui viennent de France, d'Allemagne ou d'autres pays. C'est en train d'arriver. L'information, elle est dans les tuyaux aujourd'hui. Ce que l'on constate, et moi ce que je constate, j'ai développé ce standard, on l'a imposé aux pays, c'est qu'il y a aujourd'hui des conseils, dans différents pays, à Hong Kong, aux Émirats Arabes Unis, à Malte et dans d'autres pays, qui sont en train de proposer des produits qui échappent à cet échange automatique de renseignements. Par exemple, en vendant la nationalité de Malte ou des Émirats Arabes Unis ou des certificats de résidence. Et on voit bien là qu'on a un problème qu'il faut régler. Alors on essaye de le régler en les dénonçant, en mettant ça sur la place publique, en changeant les règles. Mais les responsabiliser d'un point de vue pénal, c'est utile, même si en réalité, vous voyez les juridictions que j'ai nommées, il n'y a pas la France, l'Allemagne ou des pays qui ont des arsenaux juridiques un peu plus sévères. Donc aller dans cette direction, c'est bien, à condition bien sûr toujours de trouver l'équilibre et pas de tomber dans des situations abusives contraires où vous auriez une administration fiscale toute puissante qui abuserait de ses pouvoirs.
Alors est-ce que la France, sur ce dossier, puisque là on est en train de discuter d'un projet de loi sur la fraude fiscale, est-ce qu'on est en avant par rapport aux autres pays ou plutôt en arrière?
La France a plutôt été en avant au cours des dernières années, aussi bien dans le débat diplomatique international qu'on a conduit à l'OCDE et dans le G20. Donc la France est partie des pays agressifs, des pays leaders au G20 de lutte contre la fraude fiscale et l'arsenal juridique. Et les moyens de l'administration fiscale, même si souvent les syndicats disent qu'il n'y en a pas assez, on pourrait dire qu'il n'y en a jamais assez, mais on est, si on fait les comparaisons internationales, plutôt dans les pays qui sont bien équipés. En ce qui concerne l'aspect juridique, et c'est pour ça qu'il y a cette loi, il y a eu pas mal de limitations posées, notamment par le Conseil constitutionnel. Il y a eu des tentatives pour obliger les contribuables et les conseils à déclarer les montages fiscaux qu'ils mettent en place, préalablement à la mise en place, de dire voilà ce qu'on a l'intention de faire. Ça avait été sanctionné par le Conseil constitutionnel. On voit que la loi essaye là de faire avancer les choses pour mettre la France en fait dans la comparaison internationale, pour faire en France ce que l'on fait dans les autres pays.
Alors il y a souvent une grande inconnue quand on parle de ce sujet, c'est le chiffre en fait. C'est le manque à gagner fiscal pour les recettes de l'État français de cette fraude fiscale. La semaine dernière, Gérald Darmanin a annoncé qu'il y aurait bientôt un chiffre officiel avec un observatoire pour pouvoir évaluer la fraude fiscale et sociale aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors je crois que c'est une bonne chose. Il y a un certain nombre de pays où on parle de ce tax gap, c'est l'expression anglaise, c'est quoi le fossé fiscal? Combien il manque dans les caisses de l'État? Le roi Royaume-Uni, par exemple, établit un chiffre annuellement, je crois que c'est 70 milliards de livres pour l'année dernière, d'argent qui aurait dû être collecté par la Direction Générale des Impôts britanniques et qui n'a pas été collecté, qui vient de la fraude et qui vient de l'évasion. Donc c'est une bonne chose d'avoir un chiffre. Les chiffres, ils sont toujours faux. In fine. Mais au moins, ça permet d'avoir un débat et de voir où sont les risques les plus élevés. La France a décidé de le faire. C'était une annonce surprise du ministre du Budget la semaine dernière. Nous, à l'OCDE, on va aider la France à mettre ça en place. Et je crois que ça permettra d'avoir au moins une vision de l'évolution des choses et de voir si les contrôles fiscaux sont dirigés vers les bonnes directions. Est-ce que c'est la TVA? Est-ce que c'est l'impôt sur les sociétés, les personnes physiques? Vous voyez, il faut être un peu détaillé dans l'approche de ce chiffre-là. Et donc, oui, ça va dans la bonne direction.
Ce chiffre-là, vous pouvez l'évaluer ?
Eh bien justement, non. Il faut d'abord une méthodologie. En fait, ce qui compte plus que le chiffre, je sais que c'est le chiffre qui vous intéresse. En réalité, c'est la méthodologie qui va être intéressante. C'est comment on monte ce chiffre-là. On ne le connaît pas, le chiffre, par définition. C'est de l'impôt qui n'est pas payé. Donc, on ne peut pas savoir combien aurait dû être payé. Mais essayer de l'approcher, c'est donner plus de moyens à l'administration pour être plus efficace.
On a bien compris. Merci Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à Marie Viennot. Alors après la contamination de la puissance de l'argent, après la nuisance des affaires au sommet de l'État, la pollution, la vraie, cette fois-ci à l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air. S'agissant de qualité, justement, il se trouve que la France est aujourd'hui mise en cause par la Commission européenne dans le cadre de deux procédures de non-respect des valeurs réglementaires de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Puis il y a aussi les chiffres alarmants comme celui-ci, la pollution aux particules provoquerait chaque année en France 48 000 morts prématurées. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Alors quand on parle de pollution aux particules, on pense généralement à ces particules fines liées au transport, mais aussi à l'industrie ou à l'agriculture. Et puis il existe un autre type de pollution sur laquelle il est beaucoup plus difficile d'agir. Il s'agit de la pollution à l'ozone. Et pourquoi est-ce plus difficile? Parce que cette pollution dépend de l'ensoleillement et du niveau des températures.
Encore un autre facteur, l'ozone polluant dit secondaire, car il n'est pas lié, rejeté directement par une activité, les transports ou l'industrie, comme le sont les particules. Et la pollution à l'ozone a encore de beaux jours devant elle, sous l'effet du réchauffement climatique et des épisodes caniculaires qui se multiplient. On l'a vu, vous l'avez dit cet été. L'ozone provient d'une réaction chimique entre composés organiques volatiles, comme des solvants ou des hydrocarbures rejetés par des usines et divers polluants qui se baladent dans l'air, comme les oxydes d'azote émis par le trafic routier. Ces réactions chimiques s'effectuent dans l'air, dans les basses couches de l'atmosphère, sous l'action, vous l'avez dit aussi, des rayons solaires. Cela se produit aussi bien lors d'une chaude journée d'été que d'une belle journée ensoleillée d'hiver. C'est le seul polluant en augmentation en France et en Europe, cette pollution à l'ozone qui connaît aussi ses pics de pollution, a la particularité de voyager au gré des canicules et des vents. Contrairement à d'autres polluants dans l'air, il n'existe pas de valeur limite légale pour l'ozone en Europe. Enchaîner donc des jours de pollution à l'ozone, comme on l'observe de plus en plus, a des conséquences bien sûr sur la santé. L'ozone est un gaz irritant, il atteint facilement les voies respiratoires, il provoque des crises d'asthme, des toux, des essoufflements. En France, on estime à 500 le nombre de morts victimes de la pollution à l'ozone, de personnes qui se retrouvent immédiatement en insuffisance respiratoire. Encore une petite précision, il ne faut pas confondre l'ozone stratosphérique, la fameuse couche d'ozone, voilà, qui protège la Terre des rayonnements ultraviolets du soleil et qui va mieux, merci, et la pollution à l'ozone avec ses pics de pollution amenés à être de plus en plus nombreux.
Merci Véronique Robérotte. Il était devenu en Allemagne le symbole de tous ceux qui rejettent l'attitude d'Angela Merkel en matière de politique migratoire. Après 11 jours de polémique, la chancelière a tranché son dilemme hier avec le très controversé patron du renseignement allemand, Hans Georg Maaßen, accusé de sympathie pour l'extrême droite, a finalement été limogé. Sauf que la sanction s'est bien vite transformée en promotion pour Maaßen, ayant été nommé à la place secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. Alors cette nouvelle affectation a aussitôt suscité une nouvelle polémique, l'opposition dénonçant aujourd'hui une magouille hallucinante. Nathalie Versieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Berlin. Cette crise ouverte autour de Maaßen n'est au fond qu'une nouvelle illustration de cet affaiblissement politique de la chancelière tiraillée entre ses deux alliés au sein de la coalition.
Oui, effectivement, Angela Merkel avait eu, rappelons-nous-en, le plus grand mal à trouver une majorité. Un an après son élection, son gouvernement semble tout simplement paralysé, tandis que le parti d'extrême droite AfD, crédité de 15% des intentions de vote dans les sondages, semble profiter de chaque nouvelle crise à Berlin. Alors, le départ de Hans-Georg Maaßen, qui rebondit comme secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, vous l'avez dit, une promotion qui lui rapportera d'ailleurs plus de 3000 euros par mois supplémentaires sur sa fiche de paye, et donc une nouvelle illustration de la paralysie des institutions allemandes. À première vue, Angela Merkel a obtenu ce qu'elle voulait, le départ de Maaßen, le SPD aussi, qui exigeait la tête du patron des renseignements allemands, tandis que le président de la CSU, le conservateur bavarois Horst Seehofer, lui aussi membre de la coalition, qui dit apprécier le travail de Maaßen, se sauve la face. Mais pour combien de temps ? Le principal problème d'Angela Merkel, c'est en effet Horst Seehofer, son imprévisible ministre de l'Intérieur, qui joue son avenir à Munich le 14 octobre. Ce jour-là, les Bavarois sont appelés à renouveler leur parlement régional. Les sondages annoncent tous une débâcle pour la CSU qui va perdre la majorité absolue dans le Land. Sous la poussée du parti d'extrême droite AfD, à Munich, c'est tout simplement la panique, et une panique dont l'onde de choc se fait sentir jusqu'à Berlin. En campagne électorale à Munich, Seehofer multiplie les attaques contre la politique migratoire d'Angela Merkel, tandis que le SPD, qui n'est plus crédité que de 15 à 20% des intentions de vote, menace de tomber dans les oubliettes de l'histoire. Au gouvernail, Angela Merkel est incapable de réunir autour d'elle deux partenaires aux abois qui sont tentés par le zéro compromis pour sauver leur peau, alors que le principe même des coalitions à l'allemande repose justement sur le compromis.
Merci Nathalie Versieux en direct de Berlin. Les querelles migratoires, toujours et encore, il devrait aussi en être question aujourd'hui et demain à l'occasion d'un sommet européen informel en Autriche. Les dirigeants des 28 se retrouvent ce soir à Salzbourg pour tenter d'apaiser les tensions autour des quotas de migrants, donc, mais aussi du calendrier du Brexit. Et puis en marge de ce sommet, une autre rencontre à deux pas devrait retenir presque autant l'attention des médias, celle du Parti Populaire Européen qui regroupe la droite européenne. Un sommet dans la perspective du congrès du parti prévu à l'automne prochain et au cours duquel le PPE choisira son candidat officiel à la présidence. Alors en attendant, et une semaine seulement après le vote du Parlement européen appelant à une procédure contre la Hongrie, tous les observateurs attendent de voir si le PPE va ou non tirer les conclusions de ce vote. Par exemple, en signifiant à Viktor Orban qu'il n'est plus le bienvenu dans les rangs de la droite pan-européenne. Sauf qu'a priori, Anja Vogel, il est peu probable qu'on en arrive à cette extrémité.
Trop de lignes rouges franchies, le sentiment agacé d'être pris pour des imbéciles et surtout l'inquiétude provoquée par le changement d'attitude de Viktor Orban qui refuse clairement désormais toute main tendue comme s'il voulait aller au clash. C'est ce qui a finalement conduit une majorité d'eurodéputés, notamment du Parti Populaire Européen, à voter en faveur du déclenchement de l'article 7. Le début de la procédure prévoit précisément de restaurer le dialogue sur l'état de droit, l'université d'Europe centrale, la loi sur les ONG, la liberté de la presse, tous ces thèmes sur lesquels les démocrates chrétiens ont essayé de trouver des compromis, mais se sont heurtés à, je cite, un mur d'arrogance. Le vote constituait donc un avertissement. Sur la politique migratoire, ils ne sont pas insensibles au discours du Premier ministre hongrois et de pointer le déni des dirigeants européens sur cette question, dirigeants qu'ils appellent justement à prendre leurs responsabilités, sur la Hongrie d'ailleurs comme sur la Pologne. Une chose est de dénoncer comme Emmanuel Macron en France, encore faut-il mettre la question au menu des dirigeants. Viktor Orban devrait bien participer à la réunion du PPE avant le sommet, mais pas Angela Merkel, par exemple. La question d'une sanction, voire d'une exclusion, n'est pas à l'ordre du jour. Elle le sera peut-être davantage les 7 et 8 octobre à Helsinki, où le PPE, réuni en congrès, choisira son Spitzenkandidat pour les européennes. Manfred Weber, le président du groupe PPE au Parlement européen, est candidat. Il considère son vote en faveur de sanctions comme une clarification nécessaire avant ces élections.
Kim Jong-un poursuit sa mue. Celui qui, jusqu'à présent, ne saluait que des cartons de généraux surmédaillés, semble désormais apprécier de tendre également la main à ses anciens ennemis. Depuis hier, il discute avec son homologue du Sud, auquel il devrait d'ailleurs rendre prochainement une visite historique à Séoul. Kim Jong-un, qui se dit prêt aujourd'hui à fermer définitivement deux de ses principaux sites d'essais nucléaires et balistiques, manière de faire la preuve de sa bonne volonté, mais aussi, en réalité, une manière de renvoyer directement la balle dans le camp américain. C'est une correspondance signée Frédéric Ojardias.
La Corée du Nord est d'accord pour fermer de façon permanente son site d'essai de missiles de Tongchang-ni en présence d'inspecteurs internationaux, a assuré un président sud-coréen qui ne cachait pas sa satisfaction à l'issue de sa rencontre avec Kim Jong-un. Pyongyang se dit aussi prêt à fermer son site emblématique de recherche nucléaire de Yeonbyang, mais à condition que les États-Unis prennent de leur côté des mesures correspondantes. Les critiques n'ont pas manqué de faire remarquer que ces promesses manquent de substance et qu'elles sont loin de répondre aux exigences des États-Unis qui demandent au régime un inventaire complet de ses installations nucléaires. Mais il est difficile d'imaginer que la Corée du Nord acceptera de renoncer sans contrepartie à un programme nucléaire dans lequel elle investit ses maigres ressources depuis des décennies. Washington doit aussi faire des gestes, comme par exemple déclarer la fin de la guerre de Corée et signer la paix. Avec cette déclaration, la Corée du Nord tente de créer une atmosphère propice à la reprise du dialogue et elle demande aux États-Unis de procéder étape par étape, concession contre concession. La Corée du Sud, elle, fait pression sur son allié américain en montrant qu'elle est déterminée à poursuivre la détente par tous les moyens. Séoul brûle aussi de reprendre la coopération économique dès que les sanctions seront levées. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a déjà qualifié ces accords de Pyongyang de très excitants, mais son administration doit maintenant répondre de façon officielle aux appels du pied des deux Corées.
On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Généralement calme et sec, malgré quelques passages nuageux, les températures elles seront encore chaudes, comprises cet après-midi entre 22 et 31 degrés.